Merci d'avoir attiré notre attention sur ce texte qui est effectivement assez éclairant et d'en avoir donné cette interprétation me semble convaincante. Alors je me pose une question qui est un petit peu en marge de ton propos, mais je la pose quand même. C'était de savoir s'il y avait des éléments en fait de comparaison dans des éditions contemporaines ou antérieures qui permettraient justement de mesurer un petit peu le soit des stratégies éditoriales résolument différentes, soit une inflexion un peu plus générale dans le paysage de l'édition. Parce qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses qui prennent une résonance tout à fait particulière par rapport à la carrière d'Hetzel. Et c'est vrai que le double destinataire des contes, par exemple, c'est une chose qui est un petit peu, une remarque qui est un petit peu constante. Et voilà, donc je me demandais s'il y avait des éditions, soit des textes de préface, soit des choix dans le traitement du texte lui-même qui permettaient de mesurer un peu ces différences.
Alors oui, je pense qu'il a existé des éditions, mais je me suis pas, j'ai pas eu le temps de m'attarder justement à une comparaison avec des éditions du 19e siècle. Mais bon, l'article de Saint-Beuve du Constitutionnel est extrêmement laid. C'est un bel article, hein, il est très long, il doit faire, il fait 4 ou 5 pages polycopiées. Ouais, il fait 5 pages polycopiées. Et Saint-Beuve est clair, hein, il n'y a pas de précédent à cette édition des Contes de Perrault. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un si beau livre pour les enfants. Il y a tout un développement de Saint-Beuve sur les illustrations, hein, par exemple. Bon, je vous ai montré là, le frontispice de l'édition originale, hein, mais le fait qu'au XIXe siècle, hein, la gravure dont Jean-Paul Gourevitch parlait a fait progresser, enfin, il y a des progrès techniques en matière de gravure qui rendent ces illustrations encore plus magnifiques. Hein, il y a vraiment quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Quant à la suppression des moralités et la modification du texte comme ça, dans les éditions précédentes, même non, il n'y a pas suppression des contes en vers, par exemple. J'en ai pas souvenir. Enfin, j'avais regardé ces éditions il y a quelques années, je suis pas revenu en fait.
Mais peut-être Jean-Paul, tu auras des.
Non, mais pour compléter, il n'y a pas de précédent, il y a une postérité. Et la postérité, c'est la fameuse querelle des contes de fées. Parce que l'ouvrage de Hetzel, par son caractère extraordinaire, par son succès, et par le fait qu'il pose Hetzel comme un grand éditeur face à son concurrent Hachette, va entraîner une riposte d'Hachette, riposte qui va se faire par l'intermédiaire de Figuier, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la préface du « La terre avant le déluge » et je lis juste 3 lignes de cette préface. Quand Figuier dit « Les contes remplissent l'esprit des enfants de chimère », je cite « Je vais soutenir une thèse étrange. Je vais prétendre que le premier livre à mettre dans les mains de l'enfance doit se rapporter à l'histoire naturelle. » Et qu'au lieu d'appeler l'attention admirative des jeunes esprits sur les fables de La Fontaine, les aventures du Chaboté, l'histoire de Podane ou les amours de Vénus, il faut le diriger sur les spectacles simples de la nature, la structure d'un arbre, la composition d'une fleur, les organes des animaux, la perfection cristalline des formes d'un minéral, l'arrangement intérieur des couches composant la terre. Alors on ne va pas développer ce conflit qui va durer jusque dans les années 1965, entre une conception du merveilleux défendue par Hetzel, qui dit « faites-leur lire ce qui les amuse et laissez-leur comme fond de bibliothèque leur ami Perrault », et la position de Figuier, soutenue au départ par Hachette, mais qui sera après contredite par les autres auteurs de Hachette, qui dit « pas de conte de fées, de la science ». Donc, l'impact des contes de Perrault se mesure à la contre-attaque, en quelque sorte, qu'Hachette par l'intermédiaire de Figuier, lance contre les contes de fées.
Et j'ai une précision à apporter également, c'est que je vous ai dit qu'il n'y a pas de moralité. Hein. Et en réalité, il y en a. Il y a une moralité qui est dans la préface, et ce n'est pas une des morales de Perrault, hein, c'est la morale du pouvoir des fables de La Fontaine. Hein. Si Podane m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. Hein, et c'est la fable qui démontre, hein, qui démontre les vertus pédagogiques de l'histoire et donc du merveilleux. Hein. Si vous vous souvenez de la fable, hein, c'est dans Athènes, un orateur prend la parole, hein, devant sa patrie en danger. Il peint la guerre, Philippe, le danger. Personne ne l'écoute. Hein. On en voit qu'il s'arrête à des jeux d'enfants et puis il commence. Un jour, Cérès devait traverser un ruisseau avec une hirondelle. Alors l'hirondelle traverse et puis alors, tout le monde écoute. Et Cérès, que fit-elle? Et l'orateur, hein, Cérès, quelle fille? Un prompt, on courroux l'anima d'abord contre vous. Et il obtient l'attention de l'assemblée. Voilà. C'est la seule morale qu'on a dans le volume, et elle apparaît dans la préface. Donc vraiment, qui met en perspective justement cette dimension pédagogique du conte.
Alors, je vais aller un peu à l'antithèse de ce que tu dis par contre sur le merveilleux de Jules Verne. Moi, je me posais la question plutôt, est-ce que Hetzel n'a pas plutôt tué le merveilleux de Jules Verne? Puisque, en fait, alors bien sûr, on est dans un autre domaine de merveilleux, ouais, un domaine où le voyage, c'est magnifique, etc. Mais on le voit avec le maître Zacharius, finalement le merveilleux, Hetzel le refuse. Et on oublie trop souvent aussi que Jules Verne a malgré tout écrit un conte, un conte qu'Hetzel a refusé finalement, qu'il n'a jamais voulu rééditer, qui est La famille Raton. Alors qu'est-ce qui dérangeait justement? Qu'est-ce qui fait que finalement ce merveilleux, cet aspect que Jules Verne pouvait exploiter, dérangeait autant l'éditeur finalement?
Alors je suis entièrement d'accord avec toi, et en fait je ne l'ai peut-être pas formulé assez bien, mais dans ma démonstration, ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que vraiment l'idée du merveilleux qui est un voyageur extraordinaire, c'est vraiment l'idée d'Hetzel et pas celle de Verne. Et je te suis à 100%, c'est-à-dire qu'il va détruire toutes les velléités de fantastique, de merveilleux, surnaturel chez Verne, qui pourtant a un attachement, on le sait, à ça. Alors, pourquoi? Alors, la question est difficile. Le mot positivisme revient, hein, positivisme revient beaucoup dans la préface là, des contes de Perrault. Et même si Hetzel critique cette attitude extrême du positivisme, il en est quand même marqué, il me semble. Et que, donc, il est plutôt du côté, hein, d'un merveilleux qui s'explique, parce que le merveilleux qui s'explique, hein, comme j'ai essayé de le dire, c'est une sorte de démarche cognitive. D'abord, on part ce qu'on ne comprend pas d'une explication fantasmagorique, hein, qui peut satisfaire à un âge et qui n'est pas antinomique avec la découverte de la vérité après. Hein, c'est le fameux comment on fait des enfants. Les enfants, les petits garçons naissent dans des choux, les petites filles naissent dans des roses. Ça n'empêche pas qu'après on sache réellement comment faire des enfants. Et je pense que c'est quand même, Hetzel est quand même pris dans ce 19e siècle positiviste. Et que c'est pas, qu'au fond, c'est pas véritablement le merveilleux qui défend, mais l'intérêt pédagogique du conte. Voilà, d'après moi.
Une toute petite remarque pour descendre du merveilleux au pragmatique. C'est quelque chose qui m'a frappé en remarquant que la publication du Conte de Perrault avait été beaucoup louée de la part de la critique, mais du point de vue du commerce, ce n'est pas un succès du tout. Hetzel a été obligé de baisser de prix quelques années après, je crois en 66 ou 67, car le prix était énorme, il était de 90 francs, et il a dû le baisser à 50 francs après. C'était juste une petite remarque. J'aurais une question à M. Gourevitch. Vous avez insisté à juste raison à cette manie ou à cette manie de tout contrôler de la part d'Hetzel. J'ai toujours parlé du fait que dès le 1er février 1873, ce n'est plus Hetzel, mais son fils Louis-Jules qui était gérant officiel de la maison Hetzel. Est-ce que vous avez des informations comment cette collaboration entre père et fils a été réalisée? Car je pense que quelqu'un comme Hetzel ne voulait pas se départir du contrôle qu'il effectuait sur toute la maison.
Oui, je n'ai pas véritablement d'informations, mais on peut remarquer une chose. Il y a un premier temps, comme vous l'avez très bien dit, comme tu l'as très bien dit, où Hetzel veut tout contrôler. Bon. On peut dire que ce temps, il va aller jusque dans les années 67-68. Il y a un deuxième temps où Hetzel va progressivement passer le relais à son fils, d'abord parce que dans les années 73, Hetzel approche de ses 60 ans, que d'autre part, Hetzel n'a pas renoncé à être écrivain et continue à développer ses albums Stahl comme il développera après la Bibliothèque Blanche et qu'il ne peut pas tout faire. Et dans un troisième temps, il va laisser encore plus de liberté à son fils Louis-Jules. Donc je crois qu'il faut voir la collaboration entre Hetzel et son fils en trois temps différents. Au début, tout seul. Ensuite, associer son fils. Et en troisième lieu, lui passer le relais. Seulement, qu'est-ce qui intéresse essentiellement Louis-Jules, et on va le voir à partir de la mort d'Hetzel en 86, c'est beaucoup moins le contenu que le contenant. Et donc, Louis-Jules va multiplier toutes les éditions possibles, développer les plats et faire de la réédition, beaucoup plus que travailler avec les auteurs sur le contenant. Et vous savez vous-même à quel point Louis-Jules a des difficultés à pouvoir faire accepter son point de vue aux auteurs. Et on le verra très bien avec la Bibliothèque Blanche, parce que là, Hetzel reprend le contrôle de la Bibliothèque Blanche en disant « ça, c'est la littérature de jeunesse, ça, c'est moi ». Et là-dessus, Louis-Jules est très peu intervenu sur la Bibliothèque Blanche.
D'autres questions ?
Pourquoi les romans Jules Verne chez Hetzel ne sont pas millésimés ?
C'est-à-dire millésimés, qu'est-ce que...
C'est là qu'aujourd'hui, même à l'époque, tu as une date d'édition achevé d'imprimer le 13 mars 1984. Les romans Jules Verne n'est pas millésimé.
C'est pas, à mon avis, la volonté d'Hetzel tout seul. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de remarquer que les ouvrages qui sont faits au début de la mise en place des éditions Hetzel comportent tous une date, y compris les almanachs, parce que justement c'est un peu une nécessité. Deuxièmement, les ouvrages écrits par Stahl lui-même, dites les Bonnes Fortunes parisiennes ou les Contes de l'Oncle Jacques, ne sont pas millésimés. Ce qu'il faudrait donc regarder, et là je ne suis pas compétent pour le faire parce qu'il faut un spécialiste de l'édition, à mon avis la question elle aurait été posée à Jean-Yves Mollier s'il était là, c'est quelle est la part des ouvrages qui à partir de 1960 comportent une date dans leur titre ou en fin de parcours, et quelle est la partie des ouvrages qui n'en comportent pas. Alors il y a une possibilité de repérage. La possibilité de repérage, c'est que dans les magasins d'éducation et de récréation, qui lui est millésimé, et qui est d'ailleurs, quand il est en reliure, porte non seulement le numéro de l'édition, mais dit deuxième semestre ou premier trimestre, ou premier semestre 73-74, vous avez à la fin un certain nombre de pages de promotion. Et ces pages de promotion permettraient de retrouver, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a fait, permettraient de retrouver les dates d'ouvrage. Alors maintenant, pourquoi les ouvrages de Jules Verne ne sont pas millésimés ? Je crois que ça relève plus généralement de la politique éditoriale à l'époque et qu'il faut un spécialiste de l'édition de l'époque pour regarder qui a l'habitude de millésimer et qui a l'habitude de ne pas millésimer. On s'apercevra par exemple que Marpont Flammarion ne millésime pas automatiquement tous ses ouvrages, que c'est la même chose pour d'autres éditeurs, et que par contre des éditeurs comme Bernardin Béchet ou Médard millésiment leurs ouvrages.
Il y a aussi une sorte de cuisine éditoriale. Hein. Vous savez, quand Hachette a racheté Hetzel, il restait en stock des tas de cartonnages qui n'étaient pas attachés au texte, des tas de textes qui n'étaient pas attachés à leur cartonnage. Donc il y a une sorte de cuisine comme ça où, pour changer de cartonnage, on date pas le texte. Enfin, ouais, il me semble que ça arrive de ça. Enfin, je me tourne vers la salle, vers Volker, vers Alexandre, Alain.
Petite précision. Alors, très curieusement, ce que j'avais constaté, non seulement pour les éditions Indus 8 et Grand Naflago de Julien, mais aussi pour d'autres productions de la maison Hetzel, il y a deux exceptions. Les pages titres sont millésimées pour les années 72 à 74, et en un deuxième temps, entre 86 et 89. J'ai aucune idée pourquoi ça s'est passé, mais j'ai constaté que la première époque suit à la guerre franco-allemande et la deuxième à la mort d'Hetzel. Peut-être c'est un début pour marquer un nouveau début, mais à ça, je n'ai pas d'autre explication.
C'est souvent difficile de se baser sur le catalogue final, puisqu'en fait, on a souvent vu Hetzel réutiliser un catalogue qui n'est pas le catalogue de l'année en cours et vice-versa, on a des datations fausses sur les catalogues finalement aussi, donc c'est vrai, mais voilà, pourquoi ça serait intéressant de s'interroger.
De toute façon, un catalogue, ça peut nous indiquer quand sort la première édition de tel ou tel roman, mais comme il y a plusieurs éditions, j'imagine que c'est quand même pas facile pour les collectionneurs, les chercheurs, de savoir à quelle date ils ont un volume.
Non, mais justement, pour les collectionneurs, par exemple, on sait qu'il y a des volumes qui circulent, qui sont de la refabrication, quoi, des choses qui ressemblent à du Hetzel, qui ont été remontées avec du matériel qui a été récupéré dans la librairie Hachette. Hein. Il y a des Hachettes qui sont sorties au début qui ressemblent à des Hetzel comme de gouttes d'eau. Il faut être un super spécialiste, un bibliophile pour les distinguer. Hein. Enfin, véritablement, arrêtez-moi si je m'abuse, mais je crois pas. Quoi. Il y a vraiment une cuisine étrange autour de toute du cartonnage, en tout cas, et de l'édition finale du texte. Mais moi, il me semble que la meilleure façon de dater les textes, c'est le magasin d'éducation et de récréation, puisqu'ils sortent d'abord les textes dans le magasin d'éducation et de récréation avant d'être publiés en volume complet. Donc c'est à ça qu'il faut s'attacher. La datation la plus fidèle, la plus exacte, c'est à mon sens, celle du magasin d'éducation et de récréation. En tout cas, pour dater le texte en lui-même.
Le texte publié.
Le texte publié, voilà. Le texte publié, ouais.